Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau chapitre dans le podcast Il était quelquefois. Dans le chapitre précédent de Un parfum glacé, vous avez pu écouter que Clara a réussi à mettre dehors oncle Augustin et tante Octavia après leur avoir prouvé qu'elle était bel et bien enceinte, enfin prouvé. Voilà, c'est quand même très largement dissimulé. Mais visiblement, le couple que forment oncle Augustin et tante Octavia ne se formalise pas plus que ça, vu que la conversation va très vite partir sur autre chose, le fameux cousin Paul. Et à la fin de cet affrontement, quand enfin le couple s'en va, Clara choisit de parler un petit peu de son enfance, et notamment d'un événement tragique, dramatique dans l'enfance de Clara, à Lilou. Parce qu'elle lui doit une explication. Lilou l'aura quand même bien sauvé la face au moment de l'arrivée du couple, qui n'était absolument pas prévu et qui a vraiment mis tout le monde dans l'embarras. Et malgré la certaine haine que peut éprouver Lilou pour certaines personnes qui se trouvent sous le toit des Vernes, eh bien elle va quand même jouer le jeu et elle va, mine de rien, quand même bien les aider. Il était quelquefois le podcast qui raconte des histoires. Chapitre 46, Alsace, 2005. André Salvin était toujours attablé avec Constance et Elliot. Les deux jeunes gens avaient soudainement été très intrigués par l'ancien infirmier des Peupliers et son acharnement sur les cahiers de Madame Muller. Il leur avoua finalement qu'il n'avait pas simplement trouvé par hasard le cahier bleu en entrant dans la chambre de la vieille dame. Depuis des mois, c'était le secrétaire qui se trouvait dans la chambre qui le passionnait. « Et pourquoi qu'a-t-il de spécial ce meuble ?» demanda Constance. Alors, André leur parla rapidement de sa jeunesse et de sa passion pour l'ébénisterie, une formation qu'il avait dû abandonner en cours de route, ayant développé des allergies au vernis. Différents événements de sa vie l'avaient ensuite mené vers des études pour devenir infirmier, une autre voie qu'il aimait tout autant. Puis, grâce à des connaissances, il avait fini par trouver cet emploi, au Peuplier, et était entré dans la chambre d'Émilie Muller, où ce meuble spectaculaire avait réveillé sa vieille passion. Chaque fois qu'il entrait dans l'immense pièce, il ne pouvait s'empêcher de contempler le secrétaire avec admiration, brûlant d'envie de le toucher et de l'explorer, mais n'ayant jamais eu le toupet d'oser en faire la demande. La vieille dame, il ne savait pourquoi, ne le portait pas dans son cœur. Ou plutôt si, il savait bien pourquoi. Contrairement au reste du personnel, il ne craignait pas la vieille Muller, comme il la surnommait, avec une pointe de sarcasme, et préférait ne pas tenir compte de ses airs de châtelaine glaciale. Il avait donc profité d'un jour où il savait la vieille dame en consultation chez sa doctoresse. Et après une courte hésitation, s'était décidé à explorer le meuble. C'est en ouvrant le premier tiroir que sa curiosité fut portée à son comble. Pour avoir déjà restauré un secrétaire pourvu de tiroirs secrets, il sentait d'instinct que celui-ci devait cacher quelque chose. Excité et perdant toute prudence, il avait retiré tous les tiroirs. La plupart d'ailleurs, vides, et désappointé mais encore plus stimulé par le défi que représentait ce meuble unique, n'avait pu que constater, furieux et frustré, qu'il ne possédait ni languette ni poussoir. Absolument rien. Mais son intuition lui disait qu'une cachette, là, sous son nez, connue de la seule propriétaire du secrétaire, le narguait. Mais pris par le temps, il se promit de revenir un jour où il ne risquait pas de tomber inopinément sur la vieille Muller. Ce jour arriva une semaine plus tard. André, profitant d'une nouvelle consultation d'Émilie chez la doctoresse, était retourné dans la chambre. Cette fois, il avait parcouru les angles du meuble qu'il n'avait pas eu le temps de voir la première fois. Il avait alors entrepris de sortir le petit caisson situé à droite et découvert une languette de bois. En repoussant cette languette de bois à l'intérieur, il avait aperçu un tiroir bloqué par un ergot également en bois. Mais il resta longuement pensif quand il s'aperçut qu'il était impossible d'ouvrir le tiroir sans démonter le caisson, alors que c'était bien cette partie de l'énigme qui l'intéressait. Respirant profondément, André tourna le problème dans tous les sens. Il devait y avoir un moyen d'accéder à ce tiroir sans avoir à démonter le meuble. Sinon, quel intérêt? Pourquoi une languette de cette taille? Pourquoi positionner ainsi? Des gouttes de transpiration, dues autant à la chaleur qu'à l'excitation, perlaient à son front alors qu'il inspectait pour la centième fois, lui semblait-il, l'intérieur du meuble. Puis, il comprit enfin ce qu'il fallait chercher. Et le trouva. Minuscule, planqué derrière la colonne incurvée, un petit trou, discret. Au comble de l'excitation, André tenta d'y passer un stylo, mais s'aperçut que celui-ci, comme pour lui compliquer la tâche, s'avérait trop épais. En marmonnant une litanie de jurons énervés et pressés par le temps, André tourna la tête dans tous les sens à la recherche d'une longue tige ou d'un bout de fil de fer. C'est alors qu'il aperçut une aiguille à tricoter sur la jolie petite table basse et pour la première fois de sa vie se surprit à remercier le ciel. Il s'en empara vivement pour repousser l'ergot. Et miracle ! Le tiroir s'ouvrit, dévoilant un cahier bleu que dans son enthousiasme André sortit de sa sublime cachette. C'est bien sûr ce moment-là que choisit Émilie Muller pour faire son apparition. Apercevant le cahier bleu dans les mains de l'infirmier, elle entra dans une rage folle, une rage d'autant plus impressionnante qu'elle ne s'exprima ni par des vociférations, ni par des gesticulations incohérentes. Émilie lui lança un regard d'une acuité terrible, et d'une voix rendue atone à force de haine, exigea son renvoi de l'établissement pour tentative de vol. Il tenta bien de se justifier, mais ses explications ne convainquirent personne. Étant la patiente la plus riche et donc la plus rentable, Émilie Muller finit bien sûr par avoir gain de cause et après moult tergiversations, André fut sommé de quitter les lieux, muni d'un certificat de travail, certes acceptable, mais non glorieux. Voilà, tout ça à cause de ma curiosité mal placée que je n'ai pas pu réfréner. Je reconnais que c'est en grande partie ma faute, hein, bien sûr, mais je garde cette décision de renvoi en travers de la gorge. Vous avez fait tout ce cirque pour un meuble ? Demandèrent Constance et Elliot d'une même voix. Un regard penaud se leva vers eux. Oui, c'est stupide, je sais. Et depuis mon renvoi, je me repasse cette scène en boucle. Le moment où votre grand-mère, expliqua-t-il à Elliot, m'a surpris avec son cahier entre les mains et m'a regardé droit dans les yeux. Son regard était empli de rage et d'indignation, mais pas seulement. J'y ai également perçu de la peur. André termina sa bière d'une traite. Pour une raison inconnue, ce cahier bleu, en tout point semblable à celui qui trônait sur son bureau, hormis sa couleur, devait être soustrait au regard et relégué dans une cachette que sa propriétaire pensait inviolable. Mais pour quel motif ? Quel honteux ou horrible secret contenait ce cahier pour provoquer une telle peur et une telle haine lors de sa découverte ? André aurait bien voulu le savoir, mais son statut de paria des peupliers ne lui permettait plus d'avoir accès à la chambre de Madame Muller. Constance partie, elle ne savait où, Nicolas au chevet de Madame Muller, Luce essayait de s'occuper. Elle tentait en vain de terminer une grille de sudoku. Sérieusement, quelle idée ces jeux impossibles avec des chiffres ? Était-elle en train de se dire quand elle se rappela soudainement qu'Ursula Bader l'avait invitée à revenir chez elle, si elle restait dans les parages encore un moment ? Eh bien, visiblement, ce moment c'était maintenant. Personne n'était là pour venir avec elle, chacun menait sa barque. Elle allait elle aussi prendre le large quelques heures. La maison de Madame Bader tournait toujours fièrement au milieu des autres. De loin, Luce sentit quelque chose émaner de cet endroit, une sorte de force tranquille. En la regardant, on comprenait immédiatement que quelqu'un de droit habitait ici, quelqu'un d'important. Et ce n'était pas qu'une impression. Ursula Bader avait sauvé beaucoup de foyers grâce à ses talents. Les femmes accouchaient plus facilement, les enfants guérissaient plus vite, et les maris pouvaient se vanter d'avoir une maisonnée vivante et prête à prendre la relève. Ici, tout le monde était heureux d'avoir Madame Bader pas loin. Alors que Luce approchait de la porte d'entrée, celle-ci s'ouvrit sur la vieille femme. À peine étonnée, elle la salua. « Vous m'avez vu venir ? » demanda-t-elle en entrant. « Je vous ai senti venir, » répondit la vieille dame. Luce ne releva pas la réponse et suivit la maîtresse de maison vers le salon qui n'avait pas bougé depuis sa dernière visite. À croire que personne n'avait vécu ici depuis. « Asseyez-vous, asseyez-vous !» lui intima Ursula alors que Luce tournait dans le salon sans trop savoir où se mettre. Navrée de débarquer ainsi, un peu à l'improviste. « Vous avez bien fait, j'aime avoir de la compagnie, surtout quand elle est un peu exotique. On ne voit pas grand-chose de nouveau par ici, vous savez. » Luce émit un petit rire au terme « exotique », mais elle comprenait qu'avec l'âge, certains événements qui se déroulent de l'autre côté de la rue peuvent sembler exotiques. Alors, une personne d'un autre pays, c'était presque le carnaval de Rio. Sans lui poser la question, Ursula alla chercher deux verres de thé glacé maison et les fameux biscuits, durs comme de la pierre. Après avoir parlé rapidement de son aller-retour en Suisse et de sa fille, Luce fit tourner la conversation vers le passé et ce fameux jour de décembre où visiblement Valentine, aidée de Ursula, était en train d'accoucher. « La dernière fois, vous m'aviez dit n'avoir plus de nouvelles de Valentine, pas qu'elle était tombée enceinte. Pourquoi ? Pourtant, selon Émilie Muller, c'est vous qui veniez régulièrement au Verne voir si elle allait bien et qui la suiviez médicalement. » Ursula prit une grande inspiration. « Secret professionnel. » Valentine ne voulait pas de cet enfant et j'ai certainement, avec Clara, sauvé l'enfant et la mère. Sur demande de cette dernière, j'ai gardé le secret toute ma vie, comme vous l'aurez constaté. C'est honorable de votre part, mais aujourd'hui, le temps a passé et le fils de Valentine cherche justement des réponses. » Elle n'eut pas le temps de terminer sa phrase qu'Ursula reprit. « Je sais, c'était bête de ma part, mais je ne connais pas l'homme qu'il est devenu. Et dans ma conscience, je voulais avant tout garder le secret de mon ami. » Donc, si je remets un peu dans l'ordre les informations que nous avons, Valentine tombe enceinte d'Antoine, le mari de Clara, mais ne veut pas de cet enfant. Son but est de partir à Paris pour entrer dans une école de stylisme. La grossesse met ses projets en pause et elle se retrouve bloquée au Verne avec ses amis. D'un commun accord, elle laisse le bébé à Antoine et Clara pour que son ami réalise l'un de ses rêves, avoir un enfant. Ursula hoche la tête. Luce la sent rêveuse, peut-être un peu nostalgique. Que ferait-elle si du jour au lendemain, l'une de ses amies partait sans prévenir pour ne jamais revenir et que des années plus tard, une inconnue débarquait dans sa vie pour tout ressortir et lui demander de déballer ce qu'elle savait. Elle ne serait pas contente. Elle mentirait certainement aussi, pour protéger son amie et se protéger, elle aussi. Luce était cette inconnue dans la vie d'Ursula et finalement, peut-être aussi dans la vie de sa propre fille. Constance était devenue une jeune femme et elle s'en était à peine rendue compte. La vieille femme nota que son interlocutrice devait être partie aussi loin qu'elle dans ses pensées. Le passé ramène toujours au présent. Vous savez, Luce, Valentine n'est restée ici qu'une année, mais en une année, j'ai appris à connaître cette femme. Peut-être même bien mieux que je n'ai jamais connu Clara. Valentine et moi étions plus proches et nous avions des sujets de conversation qui se renouvelaient à chaque visite. Quand elle était enceinte, je passais la voir pour suivre sa grossesse, mais également pour suivre son moral. Je savais que cet état ne lui convenait pas. Heureusement, elle avait son frère. Des jumeaux, c'est un lien encore plus fort que des frères et sœurs. Ils sont connectés et savent pertinemment ce que ressent l'autre. Je pense que Joe a toujours su où était sa sœur, mais n'a jamais osé en parler aux autres. Ah bon ? Mais pourquoi laisser leurs amis dans le silence ? Ça, je ne l'explique pas. Il y a des choses ainsi, répondit-elle en sirotant son thé froid. Elle se reposa dans son fauteuil et semblait réfléchir. Sans regarder Luce, elle se mit à lui parler d'un souvenir précis. Une fois, alors que je venais ausculter Valentine, Joe était dans la chambre avec sa sœur. C'était un bel homme, comme Valentine, mais beaucoup plus en retrait qu'elle. Elle était le soleil, il était la lune. Les deux se complétaient parfaitement. Ils étaient là, les deux, elle couchée dans le grand lit blanc, lui assis juste à côté d'elle, et ils se tenaient la main. De son pouce, il lui faisait des caresses sur le dos de sa main, et j'avais cette sensation qu'ils communiquaient ensemble, sans se parler. C'est depuis ce moment, cette image que j'imagine que Joe a toujours su où se trouvait sa sœur, mais que pour le bien de tout le monde, il a préféré se taire. Cette visualisation de deux personnes qu'elle n'avait jamais vues ni connues troublait Luce. Pourquoi le frère, l'ami, n'avait jamais parlé de ça au page ? Se secouant un peu, elle reprit ses questions. Et Madame Muller, comment était-elle quand Valentine était enceinte ? Avec Nicolas, nous avons compris qu'elle était éperdument amoureuse d'Antoine. L'annonce de cette grossesse a dû être un choc pour elle. Lilou était une jeune femme très secrète et froide, comme vous le savez. Mais en effet, l'annonce de la future paternité d'Antoine a dû lui faire un sacré choc. En tout cas, elle a quelquefois montré un peu plus ses sentiments à partir de ce moment-là. Mais elle gardait cette sournoiserie dans le regard. Sans ouvrir la bouche, juste à travers ses yeux, je sentais qu'elle avait quelque chose derrière la tête. Elles restèrent un instant silencieuses, l'une buvant à petites gorgées, l'autre perdue dans ses pensées, ou peut-être dans son passé. Définitivement, Émilie Muller n'inspirait rien de bon à Luce. Cette femme était mauvaise et elle commençait à craindre le pire pour Nicolas. « Ursula, pensez-vous qu'Émilie raconte toute la vérité à Nicolas ?»« Qui peut le savoir ? Chacun va raconter sa version, celle qu'il préfère. Mais les vérités sont différentes selon les individus. » Si Antoine a demandé à Nicolas de contacter Lilou, c'était certainement pour une bonne raison. Mais rappelez-vous ce que je vous disais lors de votre première visite. Nous sommes de vieilles femmes, nos souvenirs peuvent se brouiller. Dites-le bien à Nicolas.